Il est 19h sur France Inter. Bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Un trafic d'antiquités tentaculaire et l'ancien patron du Louvre mis en examen, Jean-Luc Martinez, soupçonné d'avoir fermé les yeux sur de faux certificats, conteste avec la plus grande fermeté l'affaire et branle le monde de l'art. La police a-t-elle tardé à intervenir pour empêcher la tuerie d'Uvalde aux États-Unis? Plusieurs témoins mettent en cause le rôle des agents de police. L'actualité, c'est encore la guerre en Ukraine, l'est du pays sous le feu russe, la ville de Kharkiv essaie malgré tout de se reconstruire. L'exploit de Léolia Jean-Jean qui fait tomber l'ancienne numéro 1 mondiale Pliskova à Roland-Garros. Et puis la mort de Ray Liotta, 67 ans, connu pour son rôle dans Les Affranchis de Martin Scorsese. Et au téléphone sonne Christelle.
Eh bien, on manque de bras. Ils sont serveurs, couvreurs, maîtres nageurs, chauffeurs de bus ou cadres. Et ils manquent à l'appel. Les chefs d'entreprise n'arrivent pas à recruter pour cet été ou pour après. Comment en est-on arrivé là? Est-ce conjoncturel ou structurel? Notre rapport au travail a clairement changé. Le rapport de force est-il en train de s'inverser durablement? Vous êtes salarié, chef d'entreprise. Nous attendons vos appels, vos témoignages au standard. Un numéro, vous le connaissez, le 01 45 24 7000.
C'est une affaire sans précédent dans le monde de l'art et qui éclabousse l'un des plus prestigieux musées français. L'ancien président du Louvre, mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée dans une enquête sur un vaste trafic d'antiquités pillées au Proche et au Moyen-Orient. La justice se demande si Jean-Luc Martinez a fermé les yeux sur de faux certificats d'antiquités égyptiennes, dont une stèle en granit rose gravée au nom du roi Toutankhamon. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Accusation qu'il dément ce soir.
Oui, selon ses avocats, Jean-Luc Martinez conteste avec la plus grande fermeté sa mise en cause dans ce dossier, ajoutant que leur client ne doute pas que sa bonne foi sera établie. L'ancien patron du Louvre conteste donc toute complicité avec des trafiquants présumés d'antiquités déjà mis en examen dans cette affaire, voire placés en détention provisoire pour l'un d'entre eux, Robin Dieb, célèbre marchand d'art installé à Hambourg en Allemagne, écroué en mars dernier à Paris, déjà accusé d'avoir falsifié les certificats d'un sarcophage égyptien au détriment du Met, le grand musée new-yorkais. Il n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction. Ça pourrait se faire avant l'été, selon un proche de l'enquête. Mais Robin Dieb a déjà fait savoir par ses avocats que dans cette affaire-là, il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait rien falsifié.
Et ce qui interpelle aussi Emmanuel, c'est que Jean-Luc Martinez, l'ancien président du Louvre, donc de 2013 à 2021, était devenu expert contre les trafics d'œuvres d'art.
Ah, expert mondial, et c'est justement ce point qui a laissé plus que perplexe les enquêteurs selon une autre source proche du dossier. Surtout quand on sait que Jean-Luc Martinez est l'auteur, comme l'a raconté le Canard Enchaîné, d'un rapport remis à François Hollande en 2015, 110 pages pour détailler les techniques bien connues selon l'expert de blanchiment des trafiquants volés lors de conflits armés ou de révolutions, comme lors des printemps arabes. Comment ces mêmes trafiquants de haut vol fabriquent de faux pédigrés, des légendes sur l'histoire des pièces qui passent d'antiquaire en antiquaire, d'exposition en exposition, avec des faux documents de notaire.
On comprend, remonter ces filières clandestines est d'une extrême complexité pour la justice, parce qu'elles impliquent une multitude d'acteurs, marchands, experts, galeristes, parce que la traçabilité est de plus en plus complexe. Les trafiquants passaient maîtres dans l'art de falsifier des documents, raconte le journaliste spécialiste du monde de l'art, Vincent Noss.
De plus en plus maintenant, les réseaux de trafiquants, soit de faux, soit d'œuvres pillées dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, fabriquent des faux historiques qui accompagnent la vente de l'œuvre. Et parfois avec des documents très bien faits ou très bien établis, ou qui sont difficiles à revérifier, comme des documents anciens d'exportation, par exemple, et qui peuvent tromper les conservateurs ou les collectionneurs ou les marchands. C'est ce qui s'est passé pour cette stèle. Les vendeurs ont raconté qu'elle avait été achetée par un marchand local du Caire dans les années 30, qu'elle avait été exportée par un capitaine de la marine marchande allemande en 1933, qu'elle était dans sa famille pendant très longtemps, qu'elle s'est retrouvée chez un autre marchand allemand qui, lui, est directement soupçonné de trafic et que ça expliquerait toute son origine. Mais en réalité, ce qui semblerait, c'est qu'on n'est pas très sûr de l'existence de ce marin allemand des années 30 et que donc toute l'histoire aurait pu avoir été inventée.
Vincent Noce, ancien journaliste d'investigation au journal Libération, aujourd'hui à la Gazette Drouot à Paris, avec Alexandra Hacoun sur cette affaire qui a donc conduit à la mise en examen de l'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée.
À 19h05 sur France Inter, c'est 21 croix blanches devant lesquelles l'Amérique pleure.
Elles ont été installées devant l'école d'Uvalde où Salvador Ramos a tué 19 enfants d'à peine 10 ans et deux enseignants, des croix avec le nom de ses victimes, devant lesquelles se succèdent depuis mardi soir les habitants de cette ville du Texas, encore énormément d'émotions. Le président américain a promis de se rendre sur place dans les prochains jours, mais ce soir, on s'interroge aussi. Pierrick Laurent, bonsoir. Vous vous trouvez à Uvalde, Pierrick, où on s'interroge donc sur l'intervention de la police qui aurait tardé.
Oui, la colère monte chez les familles des victimes car selon de nombreux témoignages, des parents d'élèves arrivés rapidement sur place ont vu les minutes défiler avant que ne soit lancé l'assaut pour neutraliser le tireur. Il est resté au total près d'une heure dans l'école avant d'être abattu. Alors ce que l'on sait avec certitude, c'est que Salvador Ramos est entré par une porte à l'arrière des bâtiments. Il y est tombé sur un garde mais a visiblement réussi à rentrer. Il a suivi un couloir ensuite jusqu'à cette classe où il a abattu donc 21 personnes. Alors à l'extérieur, les coups de feu retentissent, certains témoins supplient la police d'entrer dans le bâtiment. Ils décrivent des forces de l'ordre mal préparées à ce genre de scénario. Les autorités, de leur côté, expliquent avoir voulu d'abord évacuer un maximum d'élèves pour sécuriser les lieux avant d'intervenir. L'autre source de colère, ce sont ces messages envoyés par le tireur à une connaissance sur Facebook. Dans le dernier en particulier, 15 minutes avant la fusillade, il dit précisément vouloir cibler une école primaire. Autant d'éléments qui, pour les familles, vous le comprenez, laissent penser que la fusillade aurait pu être évitée ou au moins prendre une autre tournure moins meurtrière.
Pierrick Laurent, direct d'Uvalde au Texas, les États-Unis impuissants à légiférer sur les armes et tout aussi divisés sur la question de l'avortement, alors que la Cour suprême pourrait revenir sur ce droit. L'Oklahoma, état parmi les plus conservateurs du pays, vient de signer une loi interdisant tout avortement dès la fécondation. En Ukraine, Kiev l'affirme, l'offensive russe dans l'Est est à une intensité maximale. Et à Kharkiv aujourd'hui, 7 personnes sont mortes dans de nouveaux bombardements. La deuxième ville du pays et son 1,5 million d'habitants méconnaissables, désertés par la population qui a fui, déjà largement détruite, tente pourtant de se relever. Par exemple, son métro, ses bus circulent à nouveau. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux Marc Garvenès et Nathanaël Charbonnier.
Kharkiv, c'est une ville qui expose ses bâtiments éventrés, sa mairie détruite et ses magasins défigurés. Sans oublier ses sacs de sable un peu partout, censés protéger maisons et fenêtres, et qui, comme les cailloux du Petit Poucet, vous rappellent sans cesse que la guerre n'est pas loin. Véronica, elle en tout cas, ne s'en remet pas.
Je n'arrive pas à trouver les mots justes car Kharkiv fait partie de moi. Jamais je n'aurais pu croire que quelque chose comme cela aurait pu se produire dans ma vie.
Émotion de Véronica au centre-ville et mobilisation générale à la sortie de Kharkiv. Sur un pont, une dizaine de bénévoles et agents de la ville repeignent une rambarde. C'est bon pour le moral, nous explique Grégory.
Nous sommes en train de repeindre la rambarde de ce pont au-dessus de la voie ferrée. C'est nécessaire pour que notre ville soit belle, malgré les bombardements. Et puis, nous sommes patriotes et on veut montrer aux Russes qu'ils ne peuvent pas nous casser et que la guerre ne sert à rien.
Grégory, qui repeint comme si une simple couche de peinture avait la possibilité de faire reculer la guerre, qui pourtant tonne encore au loin. À Kharkiv, Marc Garvenès, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
La guerre en Ukraine qui participe à la flambée des prix de l'énergie. Au Royaume-Uni, le gouvernement annonce aujourd'hui une aide exceptionnelle pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Près de 18 milliards d'euros débloqués et une taxe temporaire de 25% sur les bénéfices des compagnies de gaz et de pétrole. Richard Place est à Londres.
L'inflation à 9%, les prévisions alarmistes de la Banque d'Angleterre et celles effrayantes du régulateur de l'énergie qui annonce des factures colossales à partir d'octobre, il fallait réagir. Depuis plusieurs semaines, des associations et l'opposition travailliste réclamaient cette solution. Le gouvernement a fini par céder. 470 euros de déduction sur la note annuelle de gaz et d'électricité pour tous les Britanniques. un chèque de 760 euros pour 8 millions de foyers, ceux dont la situation financière est particulièrement compliquée. Voilà pour les annonces les plus importantes. Rishi Sunak, le ministre de l'économie, est venu au pupitre de la Chambre des communes pour les égrener. Si l'on ajoute ces mesures à celles que le gouvernement avait déjà prises en faveur du pouvoir d'achat, il affirme que l'on arrive à un montant de plus de 43 milliards d'euros.
C'est supérieur ou équivalent à ce que font des pays comme la France, l'Allemagne, le Japon ou l'Italie. Et je suis fier de dire qu'environ les trois quarts de ce soutien bénéficieront aux ménages vulnérables.
Des conservateurs qui décident de taxer lourdement des entreprises pour redistribuer aux plus pauvres, le gouvernement de Boris Johnson ne fait décidément rien comme ses prédécesseurs. Mais la situation internationale est exceptionnelle et il y a aussi des fêtes pirates à Downing Street qu'il faut vite faire oublier. Londres, Richard Place, France Inter.
Et au Royaume-Uni encore, le parquet autorise des poursuites pénales à l'encontre de l'acteur Kevin Spacey, inculpé aujourd'hui pour 4 agressions sexuelles sur des hommes à l'époque où il était directeur artistique d'un théâtre de Londres. Il y avait eu de premières accusations contre l'acteur dans la foulée de l'affaire Weinstein aux États-Unis, mais les poursuites là-bas avaient finalement été abandonnées.
Les thoniers lèvent l'ancre en Méditerranée.
C'est l'ouverture de la pêche au thon rouge pour les plus gros bateaux et pour un peu plus de 2 mois, un cadre strict mais qui a permis au fil des années de reconstituer les stocks. On est revenu à ce qu'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. C'est félicité cette semaine l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Sauf que les pêcheurs ne prennent pas que des thons dans leurs filets, ils attrapent aussi des tortues ou des requins à peau bleue, 2 espèces menacées. Bonsoir Célia Kiret.
Bonsoir Hélène.
Mais là aussi, il commence à y avoir une prise de conscience.
Oui, au Gros du Roi, dans le Gard, quand les pêcheurs récupèrent par erreur des tortues, ils les relâchent tout de suite ou ils appellent Jean-Baptiste Sénégas du Centre de soins des tortues marines de Méditerranée.
On a chaque année à peu près entre 30 et 60 tortues qui sont capturées accidentellement dans les filets de pêche. Ce sont des tortues qui sont affaiblies si le centre de soins n'existe pas, donc c'est ces tortues qui peuvent mourir. Nous, on travaille surtout avec les petits métiers, c'est-à-dire les fileyeurs et les chalutiers. Notre rôle, il est vraiment de soigner ces tortues et de les relâcher en bonne santé. Donc ce sont effectivement des animaux très menacés qu'il faut protéger.
Et en Méditerranée, il y a surtout des tortues kawan. Elles sont rares et toujours en déclin. Autre sujet d'inquiétude pour Pauline Constantin de l'Institut marin du Sea Aquarium du Gros du Roi. Les requins à peau bleue en France, ils ne sont pas commercialisés. Les pêcheurs doivent les relâcher, mais ils sont surpêchés, pas très loin au large de l'Espagne.
Aujourd'hui, il n'est pas protégé au sens strict. Son statut montre qu'il est largement en déclin, voire il va peut-être passer en extinction critique. Et pour autant, il est toujours commercialisable. Voilà, juste à côté, on a l'Espagne qui pêche énormément aux requins. Il faudrait essayer de faire changer le modèle économique des grosses pêcheries, des bateaux-usines qui existent encore. Et tout ce qui est saine, tout ce qui est gros chalutage pélagique en masse. C'est vers ça qu'il faut se cibler et tourner nos efforts, tant techniques que de changement de comportement des pêcheurs.
En France, certains pêcheurs testent de nouvelles méthodes avec des lumières sur les filets pour éloigner les requins ou les tortues. Mais pour le moment, cela ne suffit pas. Un point positif en tout cas, les pêcheurs de la Grande Bleue pêchent très rarement des dauphins, justement parce qu'il y a peu de pêche industrielle en Méditerranée.
Reportage signé Célia Kiret. Voici de quoi inquiéter les éleveurs de porcs. Un foyer de peste porcine africaine a été détecté en Allemagne, à 6 km de la frontière française. Une cellule de crise sera mise en place la semaine prochaine au ministère de l'Agriculture. Une planche à découper utilisable avec une seule main, un tourne-page commandé avec le souffle. Depuis 8 ans, la technologie se met au service des personnes handicapées. Sous la bannière d'une association, l'association TOM, qui organise des hackathons à travers le monde, des événements de plusieurs jours où se retrouvent ingénieurs et designers qui vont chercher, avec les personnes en situation de handicap, à leur construire des appareils, des outils pour leur faciliter la vie. Le premier hackathon français aura lieu les 12 et 13 juillet prochains à Paris et le reportage est signé Louis Fontaine.
C'est la grande effervescence pour cette association. Les bénévoles constituent les 15 équipes qui travailleront sur un projet bien précis. Claire Chocron, présidente de TOM France, nous présente celui de Nadège, viticultrice de 44 ans dans la région bordelaise.
On va par exemple aider Nadège, qui adorait le jardinage, mais elle a eu un accident, donc ça, elle a désormais une prothèse à la jambe. Avec sa prothèse, elle ne peut plus s'accroupir pour être à la hauteur des plantes et des fleurs. Donc ça, c'est son défi à elle. Son équipe va travailler sur ça.
En 2 jours, la prothèse de Nadège va être remodelée en fonction de sa pathologie. Un travail personnalisé qui pourra bénéficier à d'autres personnes dans le besoin.
Le prototype qui sera fabriqué communiqué et qui a profité à Nadège, eh bien, il pourra profiter aussi à Paolo qui habite au Brésil et qui se connecte sur le site des TOM Global, puisque tous les procédés de fabrication seront disponibles en ligne et accessibles sur une seule et même plateforme.
Cet accès au processus de création est gratuit. C'est là que l'association se démarque, surtout quand on voit les prix du marché, jusqu'à 10 000 euros par exemple pour une prothèse d'avant-bras.
C'est vraiment une solution hyper adaptée, hyper sur mesure, à faible coût parce qu'on utilise du bois, on utilise des imprimantes 3D.
TOM France cherche ses futurs bénévoles fabricants dans la tech française, mais aussi dans le textile, le design ou encore le bricolage.
Premier hackathon organisé en France les 12 et 13 juillet prochains à Paris.
Et puis il y a des victoires qu'on retient plus que d'autres sur la terre ocre de Roland Garros.
Comme celle de Léolia Jean-Jean aujourd'hui, 26 ans, éloignée du circuit pendant près de 10 ans, stoppée par des blessures et qui se qualifie aujourd'hui pour le troisième tour du tournoi en battant rien de moins que la 8e mondiale, ex-numéro 1 Carolina Pliskova. Il y a 4 autres Français sur les courts aujourd'hui. Fabrice Abgral, bonsoir.
Bonsoir.
Et ça a passé, c'est passé pour l'un des chouchous français, Hugo Gaston.
C'est vrai, le tournoi continue pour Hugo Gaston. Le Toulousain jouera le troisième tour après sa victoire probante sur l'Argentin Pedro Cachin, 153e joueur mondial. Hugo Gaston, lui, est 74e mondial. Et il s'est imposé en 3-7, 6-4, 6-2, 6-4. Un succès convaincant du Toulousain qui n'a jamais été inquiété dans cette rencontre, maîtrisée de bout en bout. Alors au troisième tour, Hugo Gaston sera opposé au grand espoir du tennis mondial, le Danois Holger Rune, 19 ans et 40e joueur mondial. Actuellement sur le court central, eh bien c'est Gilles Simon. Gilles Simon, vous le savez, il dispute son dernier Roland-Garros puisqu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison, mais il souhaite prolonger le plaisir. Gilles Simon opposé maintenant depuis 2h13 à Steve Johnson. Gilles Simon mène 2-7-0, 7-5, 6-1 dans les deux premières manches, 5 jeux partout entre les deux joueurs dans le troisième set. C'est alors que Gilles Simon a servi tout à l'heure à 5 jeux à 4 pour le gain du match pour la qualification, mais malheureusement il a perdu sa mise en jeu, donc il est revenu au score Steve Johnson. Mais Gilles Simon mène maintenant 40-30 sur le service de l'Américain, donc occasion pour lui de mener 6-5 et service à suivre.
Merci beaucoup Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros. Parmi les autres résultats à retenir aujourd'hui, ça passe facilement pour le numéro 2 mondial Daniil Medvedev et la numéro 1 mondiale Iga Świątek. Le sport ce soir, c'est aussi le foot, match aller des barrages Ligue 1, Ligue 2 et deux institutions qui s'affrontent en ce moment. Auxerre pour remonter reçoit Saint-Etienne qui espère de son côté éviter la relégation. On le connaissait pour ses rôles de flic un peu toxique ou de voyou. Le comédien américain Ray Liotta s'est éteint, on l'a appris il y a quelques minutes, à l'âge de 67 ans. C'est ce film, Les Affranchis de Martin Scorsese, en 1990, qui le révèle.
Everybody had their hands out. Everything was for the taking. And now it's all over.
Voilà la scène finale où il s'adresse à nous, aux spectateurs, dans Les Affranchis, et puis ensuite près d'une centaine de films pour le cinéma, la télévision, essentiellement des seconds rôles. La dernière fois qu'on l'avait vu à l'écran en France, c'était dans le préquel de la série Les Sopranos, sorti l'an passé. Il y jouait une nouvelle fois un rôle de mafieux en forme de clin d'œil à ce personnage des Affranchis qu'il avait révélé au grand public. Et puis voici une très 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 lointaine galaxie qui n'en finit plus de faire des petits. Je parle évidemment de la saga Star Wars, franchise rachetée par Disney il y a 10 ans. Et depuis, film, série, l'histoire s'enrichit sans cesse de nouvelles productions. Mais celle qui est diffusée à partir de demain sur Disney+, reste un événement. D'abord parce qu'elle est centrée sur l'un des personnages cultes, Obi-Wan Kenobi, celui qui a formé et tué Dark Vador. Je le rappelle pour les non-initiés. Et parce que c'est l'acteur d'origine, Ewan McGregor, qui reprend son rôle, Alexandra Akun.
Plus de 15 ans après sa dernière apparition en Chevalier Jedi, Ewan McGregor ressort le sabre laser pour endosser le personnage interprété par Alec Guinness dans la première trilogie.
Ils arrivent.
Une suite qui, narrativement parlant, se déroule 10 ans après les événements relatés dans La Revanche des Sith, lorsqu'Obi-Wan Kenobi avait essuyé son échec le plus cuisant en assistant à la chute et la corruption de son apprenti, Anakin Skywalker, passé du côté obscur de la Force pour devenir le maléfique Dark Vador. 6 épisodes, qu'on n'a pas eu le droit de voir, pour raconter comment le pro-guerrier de la prélogie, devenu un homme brisé, s'est transformé en maître Jedi des 3 films originaux.
Il devra être formé lorsque le moment viendra.
D'ailleurs, Disney avait d'abord envisagé un long métrage, mais le flop de Solo il y a 4 ans, sans Harrison Ford, et l'apparition de la plateforme de streaming du numéro 1 mondial du divertissement ont changé la donne, et toute la stratégie autour du très lucratif univers Star Wars, racheté en 2012, désormais fléché vers la télévision, Obi-Wan Kenobi sera bientôt suivi de la série Andor, préquel du film Rogue One en attendant la nouvelle saison de The Mandalorian. Et c'est sans compter les autres séries en cours d'élaboration, du Star Wars jusqu'à l'écœurement.
Voilà, et puis vous allez retrouver un quiz sur franceinter.fr pour voir si vous connaissez parfaitement la saga Star Wars, qui n'est pas mon cas, non initié,
moi non
parce qu'Obi-Wan Kenobi, il n'a pas tué Dark Vador, on vient de me corriger, donc vous verrez vous ce que vous connaissez de la saga en allant sur notre site franceinter.fr.
Hélène Philly pour le journal La Tête dans les Étoiles. Merci et bonne soirée. Pour nous, ça continue tous ensemble avec Le Téléphone Sonne et en ce jeudi de l'Ascension, jour férié, on va parler de travail, car on manque de bras. Les secteurs sous tension sont nombreux. Notre rapport au travail a changé. À tout de suite. D'abord, on jette un coup d'œil vers le ciel.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, la France coupée en deux, c'est ensoleillé au sud demain et plus nuageux au nord.
Oui, on a une dégradation qui vient s'inviter sur les régions du nord. Alors demain matin, de la Bretagne et de la Normandie vers le bassin parisien, les Ardennes, la Lorraine avec beaucoup de nuages, quelques gouttes ici ou là. L'après-midi, on retrouvera ces nuages des Pays de la Loire vers le centre Val de Loire et l'Alsace, alors que le soleil reviendra entre la Manche, la région parisienne et les frontières du nord. Et puis plus au sud, des éclaircies le matin, quelques passages nuageux, surtout au sud de la Garonne. Et puis ensuite, on aura un beau soleil avec quand même des nuages sur le sud des Alpes l'après-midi, un orage possible et toujours du vent en Méditerranée, Mistral et Tramontane jusqu'à 70 à 80 km à l'heure.
Et des températures en hausse.
Quelques degrés de plus qu'aujourd'hui. En effet, il fera même chaud au sud, 33 degrés à Marseille, 31 à Bastia, 26 degrés à Toulouse, Bordeaux ou Lyon. Il fera 24 degrés à Bourges, 23 à Strasbourg, à Nantes, 22 degrés attendus à Paris, 19 du côté de Lille, de Dinard et 16 degrés au Havre.
Merci Élodie.